Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Comme on vous l'annonçait hier, nous avons entamé une série sur la prévention des blessures dans le triathlon. Pour m'accompagner dans cet exercice relativement périlleux, surtout en audio, j'ai Olivier, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier.
Hello Hermano.
Et Mehdi, notre spécialiste en santé et surtout en prévention des blessures des sportifs. Salut Mehdi.
Salut Hermano, salut Olivier.
Mehdi, écoute, comme on en parlait hier, aujourd'hui on s'attelle à la prévention des blessures en natation, la première discipline que l'on rencontre dans le triathlon, celle avec laquelle on va commencer une compétition. Est-ce que tu peux nous donner une vue globale des différents types de blessures que l'on est amené à rencontrer en natation ?
Alors, en natation, on va rencontrer généralement, le nageur va rencontrer des douleurs principalement au niveau de l'épaule. Il sollicitera beaucoup moins les membres inférieurs, il va moins utiliser ses jambes, en essayant de garder son énergie pour l'étape vélo qui suit, et puis enfin la course à pied. Du coup, il va mettre un effort supplémentaire au niveau des épaules, et quasi l'entièreté des douleurs qu'il peut développer seront au niveau des épaules.
Alors là, on va passer sur une tâche un peu ardue en audio. Ça va être d'expliquer justement le type de blessure que l'on peut rencontrer. Dans le e-book, tu nous as donné une belle description et j'inviterai nos auditrices et nos auditeurs à aller voir notre e-book pour avoir plus de détails. Je pense que le podcast viendra bien en complément du e-book et inversement, le e-book en complément du podcast. Qu'est-ce qui cause des douleurs ?
Alors principalement, ce seront des douleurs de type tendinite. Pour comprendre pourquoi et comment, il faut d'abord se référer à l'anatomie d'un muscle, d'un tendon, d'un os. Le tendon, c'est vraiment une structure qui est plus dense, mais qui a des fibres de collagène plus importantes que le muscle et moins dense que l'os. C'est vraiment une phase de transition entre le muscle proprement dit et l'os. Ce changement de structure amène un changement de contrainte. Le muscle est plus élastique, plus vascularisé, plus souple, le tendon l'est un peu moins et le muscle encore moins. Du coup, un muscle qui va encaisser beaucoup plus d'énergie transmettra la même énergie au niveau du tendon qui est moins souple, du coup les fibres sont plus résistantes et à l'os. Les blessures que l'on va rencontrer principalement sont à la jonction entre le muscle et le tendon ou le tendon et l'os. Voilà, c'est le rôle du tendon. Du coup, la majorité des douleurs sont des tendinites. Il faut savoir qu'étant un peu moins vascularisé, les fibres collagéniques respirent en quelque sorte un peu moins. D'accord ? C'est comme si on fait un petit garrot au niveau de votre doigt, on voit qu'il y a moins de sang, vous aurez moins d'afférence, moins de sensibilité, il y aura une gêne, il fonctionnera un peu moins bien. Ça, c'est pour le tendon de manière générale. La particularité de l'épaule, c'est qu'il y a certains tendons qui passent entre différentes structures osseuses où il peut y avoir une compression. Alors, on parle d'acromion. Voilà, c'est la partie vraiment latérale de notre épaule. Il y a un petit tendon qui passe en dessous et qui s'appelle le supraépineux. Ce tendon est très souvent lésé parce que il passe dans un espace assez étroit, il est moins bien vascularisé, et s'il y a une compression qui arrive très souvent lorsqu'on contracte les muscles de l'épaule, cette vascularisation est encore moindre. Et du coup, s'il y a une blessure, c'est bien à cet endroit qu'elles peuvent apparaître. Voilà pour les blessures de l'épaule et la blessure la plus courante qui est la tendinite du sous-épineux.
Et donc Mehdi, pour vulgariser encore un petit peu plus, quand tu parles de vascularisation, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Alors la vascularisation, c'est le système vasculaire, c'est tous les vaisseaux qui amènent le sang et qui récupèrent le sang au niveau des tendons. Ça veut dire que c'est par là que passent tous les nutriments du muscle, tout l'oxygène également, des muscles, des tendons, de toutes les structures. et aussi l'élimination des toxines. Il faut savoir qu'un muscle qui est contracté produit des toxines, par exemple l'acide lactique qui nous crée des crampes, et cet acide lactique doit être éliminé. S'il y a une moindre vascularisation, cet acide lactique est moins bonnement éliminé, et du coup on peut créer des problèmes.
Donc au plus le tendon sera comprimé, au moins il sera vascularisé, donc au moins il pourra être alimenté en sang et en oxygène notamment, et donc au plus on risque d'avoir une inflammation du tendon, ce qu'on appelle une tendinite.
Exactement. Voilà, tu as tout compris, Olivier.
Tu parles de tendinite, je sais qu'on parle aussi de tendinopathie, c'est la même chose ?
Alors non, effectivement, tu fais bien de le signaler. Avant, on parlait de tendinite, c'était le terme générique pour des inflammations du tendon. Or, on a remarqué que les blessures qui intéressent le tendon ne sont pas spécifiques aux fibres du tendon propre, elles peuvent intéresser la partie ce qui entoure le tendon. D'accord. Alors j'avais parlé de jonction entre le muscle, le tendon et le tendon et l'os. Entre le tendon et l'os, on appelle ça l'enthèse du muscle. On parle alors d'enthésopathie. La plupart des tendons sont entourés d'une gaine qui peut elle-même s'inflammer. On parle alors là de ténosynovite. On n'entend pas gaine, mais voilà, ça parle, c'est ténosynovite. Et il y a les tendinites proprement dites qui intéressent le tendon lui-même. Tout ça est regroupé sous le nom de tendinopathie et plus non plus tendinite simplement.
Bon, j'espère que vous avez pris des notes, hein, parce que on répétera pas, mais quoi que vous pouvez toujours faire retour en arrière sur votre lecteur de podcast pour pouvoir réécouter tout ça et prendre des notes. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Mehdi. Alors justement, là, tu nous as parlé des blessures que l'on rencontre le plus fréquemment dans la natation. Comment est-ce que l'on peut prévenir ces blessures? Et après, comment est-ce qu'une fois qu'elles sont apparues, on peut les guérir?
Alors, il faut savoir que l'attitude antalgique, alors quand on entend attitude antalgique, c'est la position qu'on va adopter lorsqu'on a une douleur à l'épaule, c'est vraiment, on vient prendre son bras contre son corps. Du coup, on vient en flexion, on vient amener l'épaule contre son corps et on l'élève un peu. Il suffit, par exemple, de regarder une personne qui s'est fait une luxation, qui a une douleur, et elle prend directement son bras, elle enroule son épaule vers l'avant. Ça, c'est la position antalgique. Le problème de cette position, c'est qu'elle vient comprimer tous les tissus dont on parlait, principalement aussi le susépineux, par exemple. Du coup, le travail va consister en une ouverture d'épaule, c'est-à-dire aller dans le sens inverse de cette position. D'accord? On va venir étirer ces structures, c'est-à-dire abaisser l'épaule, ouvrir l'épaule. Et ce sont des exercices, par exemple, d'armée, où on vient étirer, par exemple, le pectoral, c'est-à-dire mettre son bras, venir étirer son bras vers l'arrière pour ouvrir, ou venir prendre des petits poids en flexion du tronc, on se tient un peu penché en avant, on prend un petit poids et on laisse pendre son épaule vers le sol pour ouvrir l'épaule, pour détendre les structures et favoriser la circulation du sang et la détente des tissus.
Oui, alors pour le premier exercice dont tu parlais, hein, où on va venir ouvrir et étirer son pectoral, c'est le genre d'exercice que, pour ceux qui ont déjà fréquenté une piscine, on voit souvent des gens dans la douche après l'entraînement qui, justement, ont l'impression de faire un gros câlin au mur, enfin en tout cas d'un bras. Voilà, c'est le type d'exercice, si vous avez besoin d'une visualisation de cet étirement.
Belle image.
Super, donc ça c'est sur la partie prévention des blessures, c'est-à-dire quand une petite douleur commence à apparaître après un entraînement, on va pouvoir étirer ses muscles et ses tendons de cette manière-là. Par contre, une fois qu'il y a une vraie lésion, une fois qu'il y a une tendinite, une tendinopathie, comment est-ce que l'on fait pour résoudre ce problème, pour guérir la blessure?
Alors, les tendinites, c'est l'une des blessures les plus embêtantes, même peut-être quelquefois pire qu'une fracture, parce que le risque de récidive est très important. Les tendinopathies, en général, du coup, doivent être prises en charge de manière sérieuse et bien faite. Et l'idéal serait par un professionnel de santé qui s'y connaisse vraiment bien. Le problème étant, voilà, la récidive. Il faut savoir que quand il y a une tendinopathie, quand il y a une atteinte des tissus, une petite déchirure de certaines fibres, il y a une cicatrisation. C'est un phénomène naturel de guérison du corps. Cette cicatrisation doit se faire de manière la meilleure. Le problème étant que lorsque on étire mal, quand on a mal à un muscle ou à une articulation, on la sollicite moins et du coup, la guérison se fait de manière différente. Normalement, la position des fibres, c'est-à-dire la création de nouvelles fibres ou la cicatrisation de fibres, se fait dans le sens de la contrainte. Si on mobilise moins un muscle, ça va se faire de manière anarchique. Et dès qu'on va solliciter par la suite ce type d'articulation ou ce muscle, il y aura des micro-déchirures et on atterrit dans un cercle vicieux de tendinite. Et on parle de tendinite chronique. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Du coup, il faut consulter un thérapeute le plus rapidement possible.
Oui, donc effectivement, consulter un thérapeute. Et puis, donc si je traduis ce que tu veux dire, à l'indifférence d'une fracture où là, on va immobiliser un membre pour que l'os se reconstitue, se régénère, quand on présente une tendinopathie, au contraire, il va falloir continuer à mobiliser tout doucement et sous le conseil d'un spécialiste, c'est les différentes articulations, les différents membres, pour pouvoir continuer à garder une certaine amplitude et une certaine vascularisation.
Voilà, c'est ça. En fait, il faut. Alors même pour certaines fractures, il y a des mobilisations précoces que l'on fait. On a vu que bouger quand même un minimum, ça permet une cicatrisation, une meilleure cicatrisation. Les tissus sont plus souples. Les tissus souples, voilà, ils sont plus embêtants parce qu'on a directement envie de s'adonner au sport. On sent moins la douleur et du coup, on a envie d'aller plus loin. Mais le problème, ça prend du temps. Le plus dur en travaillant avec les sportifs, c'est de faire comprendre, conscientiser le sportif sur cette guérison et que ça peut prendre un certain temps.
Olivier, tu voulais réagir, poser une question ou on garde d'autres questions pour l'épisode de demain où justement on abordera les blessures en vélo?
Non, je pense que c'est très clair. Je reviendrai juste peut-être sur un point qui était mentionné au début par Mehdi. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être encore assez nouveaux dans le monde du triathlon, c'est vrai qu'on a tendance à économiser nos jambes. Donc c'est-à-dire que la manière dont on va nager sur un triathlon n'est pas du tout la même manière qu'on va nager en natation de manière un peu plus classique. C'est-à-dire qu'on va économiser énormément nos jambes. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que on a besoin de nos jambes pour le vélo et la course à pied. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi à prendre en considération.
Oui, c'est exactement ça.
Merci pour ce tour d'horizon donc sur les blessures que l'on peut rencontrer en natation, comment les prévenir et comment les guérir. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur le même schéma, mais sur la partie vélo cette fois-ci.
Super, merci Armano.
Merci Mehdi, merci Olivier, à demain.
Salut, à demain.
Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. Ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande.